Bien, on commence alors. Hein. Bonsoir à tous. Je vais faire un tout petit test sans le micro. Au fond de la salle, vous me dites tout de suite si ça marche pas comme ça. Ça va là? Oui, ça va pour tout le monde? D'accord. Bon, si jamais il y a une baisse de régime, n'hésitez pas à me rappeler à l'ordre. Ça peut arriver en cours de route, au gré des hésitations de ce que je voudrais dire. Mais ce sera peut-être plus simple pour moi qu'avec le micro. Bien, donc voilà la deuxième et dernière séance sur ce cycle que j'avais intitulé « Les économistes, une profession en crise, dans un monde en crise », avec un point d'interrogation qui apparaît et disparaît selon où on en est. Donc là, je le laisse encore. Associé à trois autres points d'interrogation tout de suite, puisque j'avais scindé cette question en trois. Quelle responsabilité des économistes dans la crise? Alors, c'est ce dont il a été question principalement il y a 15 jours, lors de la première séance, où j'ai présenté des erreurs, approximations récentes d'économistes aux conséquences un peu lourdes. Et puis maintenant, donc il y avait ces deux autres volets de la question que je voulais traiter, c'est-à-dire m'occuper plutôt de théorie, la théorie économique, de voir où en est la science économique, et également me pencher sur les économistes comme membres d'une profession et interroger donc une éventuelle crise au sein de cette profession également. Même point de départ qu'il y a 15 jours, je reviens sur la demande qui avait été faite par la reine Elisabeth II lors de sa visite de la London School of Economics, où elle demandait en fait, mais pourquoi, elle demandait ça en 2008, hein, au moment où la crise avait éclaté, pourquoi les économistes n'avaient pas vu venir cette crise. Et la première réponse qui lui avait été faite par un groupe rassemblé au sein de la British Academy, c'était en résumé, ces économistes parlaient d'un échec de l'imagination collective. Personne n'avait vraiment fauté individuellement, mais personne n'avait eu la vision d'ensemble. Donc je ne reviens pas dans le détail là-dessus, mais si je repars de là, c'est parce que je ne vous ai pas tout raconté sur cette histoire, puisque un mois plus tard, vous avez eu une autre réaction d'autres économistes, 10 universitaires anglais, qui ont souhaité également répondre à la reine, réagir aussi à la première réponse. Et pour ce second groupe, l'analyse des premiers échouait à reconnaître une quelconque défaillance dans la formation ou la culture des économistes eux-mêmes. Et eux souhaitaient donc mettre plutôt ça en avant. Il y avait un double reproche fait par ces économistes, une fois qu'on se penche sur cet aspect des choses. Premier reproche, une focalisation sur le langage mathématique au détriment du monde réel, au détriment surtout d'éléments du monde réel qui ne trouveraient pas leur expression adéquate dans ce langage mathématique. Et deuxième problème, une spécialisation sur des champs de recherche très spécifiques au détriment de toute vision d'ensemble. Donc en résumé, ce second groupe d'économistes déclare que la formation étroite des économistes a été l'une des principales raisons de leur incapacité à voir venir la crise. Bon, ils enfoncent même le clou, là aussi c'est une courte lettre que vous pouvez trouver en ligne, en parlant d'une production, à propos des formations en économie, d'une production d'idiots savants, en français dans le texte, idiots savants qui seraient très compétents pour manipuler des modèles mathématiques, mais complètement ignorants des problèmes économiques réels. Alors, par un petit détour par la théorie, on va justement essayer de voir à côté de quels problèmes économiques réels ils sont passés. Donc, a-t-on également une crise de la science économique? Alors, pour aborder cette question, d'abord, je voudrais vous donner une idée de l'état d'autosatisfaction dans laquelle se trouve une partie de la profession dans le courant des années 2000, à partir de deux citations. Deux citations d'économistes importants, donc celui du dessous, on a déjà parlé la dernière fois, c'est Olivier Blanchard, qui est chef économiste du Fonds monétaire international. Et le premier, Robert Lucas, c'est un prix Nobel d'économie, il a eu le prix Nobel en 1995, une autorité donc dans le champ académique qui, si vous voulez, voilà, pour le présenter un peu d'une phrase, c'est lui d'une certaine manière qui a définitivement, enfin définitivement non puisqu'il est revenu depuis, mais qui après Friedman a enterré Keynes en réorientant les façons de modéliser l'économie d'une manière assez radicale. Alors, vous voyez, chacun interrogé ou chacun dans des papiers fait un diagnostic très optimiste sur l'état de l'analyse économique dans son versant macroéconomique, celui qui est censé expliquer et prévoir l'évolution des principales variables économiques, la croissance, le chômage, etc. Vous voyez que la déclaration de Blanchard date de quelques semaines à peine, c'est en août 2008, avant la faillite de Lehman Brothers, qui marque en fait le début d'une prise de conscience de la crise pour tout le monde, dans les esprits, dans le grand public, et puis même pour les plus récalcitrants qui disaient non, c'est juste un trou d'air éventuellement, ce n'est pas si grave, etc. Là, tout le monde a commencé à prendre cette crise au sérieux, et de fait maintenant, tout le monde avait raison de prendre cette crise au sérieux, au moins à partir de là. Donc depuis, on est passé de ce bel optimisme à l'idée qu'il faut repenser complètement la politique économique. Donc ça, c'est le genre de conférences qui sont organisées actuellement. Ça date d'avril, toujours au sein du Fonds monétaire international, donc en partie avec les mêmes acteurs. Et derrière l'idée qu'il faut repenser la politique économique, il faut comprendre aussi qu'il s'agit tout simplement de repenser la macroéconomie et l'analyse économique. Dans cette optique, Olivier Blanchard, qu'on ne quitte toujours pas, a proposé 5 leçons à tirer de la crise. Bon, on va aller à l'essentiel. Je vous livre simplement les 2 premières. Alors là, ça commence à être vraiment petit, mais c'est pas la peine de lire. Les 2 premières leçons apparaissent en bas. La deuxième, eh bien, l'idée que la finance, ça importe. Alors, bon, c'est un doux euphémisme qui vire un peu à la farce. C'est daté aussi, c'est un peu petit, mais l'article du Wall Street Journal, là, est daté du 1er avril. Mais derrière ça, il y a une réalité qui est que le système financier n'est pas toujours pris en compte dans les grands modèles macroéconomiques. Et quand il est pris, c'est de manière très sommaire. En fait, il n'y a pas grand-chose à signaler à ce niveau-là. Et on va expliquer pourquoi. Pas grand chose à signaler, tout va bien de ce côté. La première leçon que Olivier Blanchard tire de la crise, c'est que les économistes doivent faire preuve d'humilité. Alors effectivement, quand on passe de tout va bien à on n'a rien vu venir et on multiplie, comme on l'a vu la dernière fois, les erreurs lourdes de conséquences, il vaut mieux faire preuve d'un peu d'humilité. Plus fondamentalement, cet appel à l'humilité m'a rappelé une excellente chronique que vous aviez d'un économiste au début, enfin elle date de 2001, d'André Orléans, dont on va également reparler, intitulée justement « L'humilité en économie ». Alors je la mets ici, bon toujours pas dans le but que vous la lisiez, c'est absolument illisible là, mais en revanche ça sera mis à disposition avec le reste du diaporama en ligne, donc vous pourrez la lire dans le détail. Là je vous en livre le point clé, le point défendu par l'auteur, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de loi universelle en économie, mais des régularités historiquement situées qui dépendent d'un ensemble de constitutions institutionnelles, d'un système politique, etc. Choses qui s'en mettent de bon sens. Donc pas de loi universelle, mais c'est quand même un message qu'il faut continuer à marteler, au moins au sein des débats théoriques en économie, parce que ça dépend de conditions institutionnelles, et également, et plus encore, parce que ça dépend de l'idée que les agents économiques se font eux-mêmes du système économique. Et là, c'est dit en quelques mots, de manière très claire, très simple, pour moi, là, on a exposé le fondement le plus solide à l'appartenance des connaissances économiques aux sciences sociales. Là, je m'oppose à un autre point de vue, c'est que l'économiste court encore souvent après les sciences de la nature et énonce des lois dans l'espoir de bâtir une vraie science avec un grand S, mais les modèles de science qu'il se donne ne sont pas adaptés à son objet. Modèle de science de référence, ça doit être plutôt celui qui est développé en histoire, en sociologie, en anthropologie, donc au sein des sciences sociales. On rejoint ici, d'une certaine manière, la critique selon laquelle les considérations mathématiques ont pris le pas sur la réalité à étudier. Je généralise un peu le propos maintenant. Plus généralement, on a trois grandes faiblesses théoriques des modèles macroéconomiques qui sont reconnues par plus de monde aujourd'hui que durant les années 2000, où seule, d'une certaine manière, une poignée d'économistes critiques, toujours critiques, semblait trouver à redire à l'état de la macroéconomie, quand d'autres s'en réjouissaient. Trois faiblesses théoriques, trois manques dans ces modèles, à un niveau peut-être un peu plus fondamental, mais qui explique aussi pourquoi le secteur financier est maltraité dans ces modèles, donc dans la connaissance, dans les théories économiques. Premier point, l'incertitude. L'incertitude, ici, ça s'oppose à l'idée de risque qui serait probabilisable. Eh bien, on a cette distinction essentielle en économie, mais justement pas toujours prise au sérieux, entre risque probabilisable, à partir duquel on peut continuer à faire des paris calculés, et puis incertitude radicale, où là, on ne peut plus compter. C'est l'événement imprévu. Ça a été popularisé dernièrement, peut-être ça vous parlera comme ça, sous l'idée de signe noir également. Pour le présenter autrement, de manière intuitive, je prends souvent cet exemple où finalement un risque probabilisable, c'est celui du lancer de dés. Vous avez un dé à 6 faces non pipé, vous le lancez, vous savez que vous avez la même chance de tomber sur n'importe quel des faces, des 6 faces, vous avez une chance sur 6 à chaque fois. Bien, ça c'est du risque probabilisable. Pour l'incertitude, il faut imaginer un dé pour lequel on ne connaîtrait pas le nombre de faces, a priori. Il est indéterminé. Bon, et puis Keynes, qui a manipulé cette distinction de manière essentielle, prenez d'autres exemples. On parle aussi souvent de la probabilité, mais justement c'est mal choisi comme terme, mais l'apparition d'une guerre, ça fait partie d'un risque qui est non probabilisable. Deuxième point, la diversité, ici on entend la diversité des acteurs. Les modèles macroéconomiques marchent avec une hypothèse connue sous le nom d'agent représentatif. C'est-à-dire que pour certaines décisions, typiquement décisions de consommation, vous avez un individu qui est représenté comme devant faire face à des choix, qui fait des arbitrages. Et c'est la logique de cet individu qui rentre dans le modèle et qu'on considère comme représentative de la logique de tous les individus. Ce que vous perdez, c'est l'hétérogénéité des choix. Et alors que ça, c'est assez essentiel, notamment sur les marchés financiers. Le secteur financier est pris comme un seul bloc. Troisième point, et donc ça évacue pas mal de problèmes de coordination des comportements et des représentations. J'en arrive à mon troisième point, c'est que la dynamique des représentations, j'évoquais tout à l'heure déjà l'importance de la manière dont les agents économiques, donc chacun de nous, nous représentons l'économie, l'influence que ça a sur son fonctionnement même. Donc aussi ça aussi popularisé éventuellement, à minima on parlera de « ah bah oui, la confiance c'est important en économie », mais il y a également d'autres choses qui entrent en compte. Eh bien, cette dynamique des représentations, elle est complètement simplifiée par des hypothèses un peu héroïques, en particulier une hypothèse dite d'anticipation rationnelle. Celle-ci consiste à dire, en un mot, elle consiste à dire que chacun de nous avons le modèle économique du théoricien de l'économie en tête, et qu'on se conforme à ce modèle. Le sens de cette hypothèse est en fait assez faible. Ce qui compte réellement ici, sa principale vertu, c'est elle est d'ordre technique. En fait, elle a une traduction mathématique intéressante. Elle simplifie les choses. Et bon, on reprochera pas non plus à des modèles d'être simplificateurs. Après, il faut savoir à quel endroit on accepte des simplifications. Parce que sinon, modèle comme représentation simplifier de la réalité par essence, par construction, ça ne peut pas tout restituer. Une vertu secondaire de cette hypothèse est, là je fais un demi-procès d'intention, elle est d'ordre idéologique puisqu'elle permet de conclure à l'inefficacité de certaines actions de l'État sur l'économie. Bien, donc j'ai insisté sur ces trois éléments parce que si vous les prenez au contraire vraiment au sérieux, comme de plus en plus de gens semblent être disposés à le faire, eh bien vous faites sauter toute la théorie économique dominante et vous allez nécessairement faire appel aux autres sciences sociales, en particulier à la sociologie, qui en matière de représentation collective a deux ou trois petites choses à dire depuis près d'un siècle. C'est un peu son domaine. J'introduis ici ainsi l'idée d'une complémentarité, voire d'une concurrence, entre l'économie et d'autres disciplines. Et je passe alors à ma troisième question, qui ne regarde plus l'économie comme un ensemble de théories, mais comme une profession organisée autour d'une discipline. Donc maintenant, on va voir si cette profession elle-même est en crise. Ça va toujours derrière ? Personne ne regrette que j'ai pas pris le micro ? C'est bon ? Si ? D'accord. Alors, oui, il y a les enfants qui crient ? Je travaille souvent avec des enfants qui crient. Enfin, bon. Ok, alors je vais essayer avec le micro. Ça va être un peu différent. Ok. Donc, pour ce troisième point sur lequel je vais le plus m'attarder, une profession en crise, une petite remarque au départ, même deux, enfin parler de profession ne va pas de soi, on n'a pas affaire à, et on va aussi revenir là-dessus, on n'a pas affaire à une profession libérale, avec organisée autour d'un ordre. Et puis, parler de profession ne va pas de soi non plus si on raisonne sur, comme je l'ai fait depuis le début, en parlant de Olivier Blanchard, qui est certes français, mais qui travaille dans une institution internationale. J'avais parlé d'économiste américain la dernière fois. Ça n'a pas de soi non plus si on regarde ça au niveau international. En fait, c'est une profession qui se vit en partie internationalisée. Et là, qui dit international dit simplement tourné vers les États-Unis, mais qui en fait n'a pas la même signification et encore moins évidemment la même organisation institutionnelle dans les différents pays. Ça, c'est assez bien documenté par une thèse qui a donné lieu à récemment un ouvrage. J'en dirai pas beaucoup plus ici, juste que la plus grande distance en France qu'aux États-Unis, on a une plus grande distance entre la sphère universitaire, les professeurs d'économie, et la sphère politique. Donc la question même de l'influence des économistes et donc de leur responsabilité d'une certaine manière se pose quand même en des termes assez différenciés. Bien, donc là je suis vraiment enfin plus au niveau encore une fois de la profession avec un regard donc plus franchement sociologique ou de témoignage même en tant que membre de cette profession entre guillemets que économique. Et je précise que je vais me concentrer ici sur la France, même si certains mouvements qui vont être présentés se retrouvent également ailleurs, et puis ils font réseau. Bien, donc pour essayer d'organiser la réflexion ici de manière un peu analytique, je propose trois critères pour évaluer l'état de la profession. Trois critères. Je me suis inspiré en partie, c'est des critères dont on parle en général quand on parle de profession justement, au-delà des économistes. Le premier, c'est d'interroger en fait l'indépendance de ces économistes, quelle indépendance ou autonomie dans leur travail ils ont. Le deuxième, c'est d'interroger les dynamiques de renouvellement, et là je vais mettre l'accent sur la formation. Et le troisième, c'est de voir comment cette profession, avec justement ses différentes sensibilités, réussi à ménager ou au contraire écrase sa diversité. Et là, il y a une sorte d'équilibre fin à obtenir entre unité et diversité. Alors, autonomie pour commencer, traiter en deux points. La question de l'indépendance, elle peut se poser à deux niveaux. J'en avais déjà soulevé un en vous rappelant ces trois pavés dans la mare, l'ouvrage de Laurent Mauduit sur les imposteurs de l'économie, Inside Job, et puis une mise en cause aussi, une dénonciation de conflits d'intérêts également de la part d'un économiste qui tient un blog, donc qui s'appelle Jean Gadret. Alors, ici, en fait, on a eu une réponse partielle et dans l'ensemble satisfaisant, puisque ces critiques ont donné lieu à une réaction de la profession, à commencer par une réaction aux États-Unis. Vous voyez, donc je ne reste pas en France quand même, le principe que je m'ai dédicté. Bon, pour l'essentiel, ce sera du point de vue de la France. Mais là, ça part des États-Unis, cette réaction. En fait, vous avez environ 300 économistes qui, suite à ces critiques, à ces dénonciations de conflits d'intérêts, ont demandé à leur association, au début de l'année 2011, d'entamer une réflexion sur l'élaboration d'un code de déontologie. Et ça, c'était en 2011. Au cours de l'année 2012, on assistait à l'élaboration et l'adoption de chartes à différents niveaux, au niveau donc des associations, l'association américaine, l'association française de sciences économiques, au niveau de laboratoires, comme les deux dits plus, enfin les deux principaux, les deux qui ont le plus de moyens aujourd'hui en France, à Toulouse et à Paris. Et puis, dans d'autres lieux de la réflexion économique, notamment l'OFCE, dont j'ai également parlé la dernière fois. Et voilà. Je ne vais pas évidemment passer en revue toutes ces chartes, mais je vais mentionner celles des associations, en commençant par la première, l'association américaine. Voilà en quoi ça consiste en fait. Et puis, pareil, là, je serais intéressé par vos réactions, savoir si vous allez rester dans une posture de dénonciation à dire « oui, tout ça, en fait, on se paye de mots ici, ça va rien changer justement à ces conflits d'intérêts potentiels » ou alors est-ce que, comme moi, vous pensez que ça a une relative efficacité. Donc voilà ce que fait cette association. Elle oblige les auteurs qui soumettent un article dans l'une des grandes revues dont elle a la responsabilité, elle s'occupe de 6 ou 7 revues, eh bien, elle les oblige à communiquer un certain nombre d'informations, à commencer, des choses assez basiques, par savoir si de l'argent a été reçu ou non pour financer cette recherche. Le genre d'informations que mettaient en avant justement nos dénonciateurs avant, en disant « mais regardez, lui il parle de tel sujet, mais en même temps il a été payé par telle banque pour en parler, etc. » Autre information à donner, si au-delà du financement de l'étude, les auteurs ont bénéficié davantage de la part de parties intéressées par l'étude au cours même des 3 dernières années. Vous voyez que le contrôle est assez, assez poussé. Et puis enfin, ils demandent si les auteurs font partie d'organisations intéressées par le sujet de l'article, alors là qu'il s'agisse par exemple d'associations, de partis politiques ou de groupes de pression. Voilà, vous disant ça... Si j'oublie tout à l'heure, il faudra que je précise aussi que je fais partie d'une association, pas d'un parti politique. Donc je le dirai au moment voulu, sinon si je l'ai oublié, n'hésitez pas à me demander de le rappeler. Bien, ça c'était les conditions demandées par l'association américaine. L'association française de sciences économiques, elle, quelques mois plus tard, proposait une charte qui couvrait plus de points, puisque ce n'était pas juste les informations en cas de publication, mais également... ce qui relève en général, on dit, et là aussi on trouve ça dans les autres sciences sociales, de questions déontologiques en matière d'expérience, d'expérimentation. Les économistes font de plus en plus d'expériences de laboratoire. Là, il y a une certaine déontologie à respecter, ou bien d'expérience sur le terrain. Des règles à respecter également pour repousser toute pression éventuelle de la part du commanditaire d'une recherche qui viserait à influencer sa conduite ou la lecture des résultats. Et enfin, la charte parle de bons principes à respecter en matière de participation des économistes au débat public en cas d'intervention dans la presse. Là aussi, il demande de mentionner en fait cette manière d'où on parle. Donc, mon idée, c'est que ces chartes devraient changer la donne, un peu la donne, par rapport aux situations qui étaient dénoncées, même si pour la SE, l'association française, contrairement à un ordre professionnel type médecin, avocat ou architecte, cette association ne dispose d'aucun pouvoir en cas de non-respect de ses règles. Il y a des pouvoirs de sanction chez les médecins, chez les avocats, là c'est pas le cas. Encore moins que l'association américaine qui, elle, gère des revues et peut ainsi conditionner l'accès à ces revues au respect de ses règles. Néanmoins, ça a quand même l'effet de repères, de bonnes pratiques qui se diffusent, et vous voyez que vous avez à différents niveaux. Donc c'est pas vraiment là que je situe le problème de l'autonomie pour parler éventuellement d'une crise de la profession. En fait, la perte d'autonomie menace à un autre niveau, puisqu'on n'a pas seulement une question d'indépendance économique, mais également une question de liberté dans le choix des sujets et les matières à traiter. Et là, je vais évoquer un deuxième point qui menace l'autonomie des économistes, qui sont, alors on parlait d'évaluation pour commencer pour des cours, là ça va être plutôt l'évaluation des enseignants-chercheurs dans la partie recherche. Bon, cette évolution des formes d'évaluation que je vais évoquer maintenant, elle ne concerne bien sûr pas seulement les économistes, mais je vais limiter ici mon propos aux conséquences pour ces derniers seulement, sans prétendre pouvoir généraliser les conclusions. Je m'appuie ici sur le travail réalisé au sein de l'Association française d'économie politique, donc voilà pour l'association à laquelle j'appartiens, dont je dirai quelques mots plus tard. Un rapport en fait est disponible en ligne et c'est leur constat ici que je vais restituer. Alors ce qu'il faut savoir, si vous ne connaissez rien sur le sujet, c'est qu'aujourd'hui, les enseignants-chercheurs et chercheurs en économie, ailleurs aussi, mais en économie pour ce qui nous concerne, sont pour l'essentiel évalués d'un strict point de vue quantitatif qui consiste à compter le nombre d'articles qu'ils publient dans les revues, plus ou moins bien classés, et ces revues vont être plus ou moins bien classées selon des listes qui seront établies soit par le CNRS, soit par un autre organisme dit Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui pour dire a-t-on affaire ici à un bon économiste ou un mauvais économiste ? On va regarder combien d'articles il a publié, et pas n'importe où, dans les revues bien classées. Eh bien, ce qu'a montré ce rapport, et bon, ce qui est un constat quand même assez largement partagé, c'est que cette manière d'évaluer pousse les chercheurs au conformisme. Alors, c'est un paradoxe, hein, puisque l'activité de production de connaissances qu'on cherche à évaluer ici, elle devrait plutôt être appréciée en premier lieu en fonction de son caractère novateur. En fait, on a le résultat inverse, c'est que le système d'évaluation pousse au conformisme. Ça a en fait un effet de prescription qui est observable à trois niveaux. En fait, on va se concentrer, ces revues qui ont été bien classées et mises en avant, finalement, vont chasser les autres, puisque tout le monde va chercher à publier seulement dans ces revues. On se met des articles aux seules revues qui comptent. Et pour rentrer, pour qu'un article passe dans ces revues, eh bien, il doit se conformer à la politique éditoriale. Deuxième effet, une réorientation des sujets de recherche en fonction des thèmes à la mode, plus susceptibles de passer justement dans ces revues. Et troisième effet, une adoption des méthodes utilisées par les articles les plus célèbres au détriment d'une multiplication des perspectives sur un même objet. Alors qu'on pourrait voir là aussi le paradoxe, on enrichit normalement la connaissance d'un phénomène économique en le prenant par différents bouts. Et là, non, la méthode légitime reconnue qui a déjà donné lieu à publication, eh bien on aura tendance à la répéter. La situation s'aggrave si on tient compte du fait que au-delà de ces principes, dans les faits, les revues les mieux classées ne sont pas immédiatement ouvertes à tous,
mais il publie quasiment que les chercheurs du réseau qui gravitent autour de chacune de ses revues, avec une unité de vue sur les problèmes pertinents et les bonnes manières de les traiter. Et là, derrière les bonnes manières de les traiter, en général, c'est pour l'essentiel par des modèles mathématiques, avec les simplifications évoquées tout à l'heure. Et on a également une domination dans ces classements des revues nord-américaines, y compris en France, et avec elles, d'une manière de faire de l'économie, contre des traditions de pensée plus présentes en Europe, et notamment en France. On a une domination qui est écrasante, et renforcée par les effets de prescription du système d'évaluation, au risque de faire disparaître les autres traditions. Donc, pour en savoir plus le rapport, je vous livre là un schéma présent dans ce rapport pour illustrer les dynamiques d'auto-renforcement qui aboutissent à fortement limiter la diversité des recherches en économie. Donc vous voyez, c'est un jeu, je ne sais pas si vous voyez vraiment d'ailleurs, pas vraiment, mais c'est un jeu à trois éléments ici. L'évaluation des laboratoires, l'évaluation des EC pour enseignants-chercheurs et l'évaluation des publications. Du côté de l'évaluation des enseignants-chercheurs, bon alors déjà il y a des primes qui vont être liées à ça, mais sans même parler de ça, pour être considéré comme un chercheur actif ou produisant, un chercheur doit publier des articles à une certaine fréquence dans les revues classées. C'est ça qui compte. Finalement, peu importe le contenu de ce qu'il produit, l'essentiel est une certaine fréquence. Une personne, le projet paraît un peu faux aujourd'hui, mais qui se consacrerait pendant 20 ans à un seul article en disant « oui, mais la qualité de cet article-là évitera de polluer l'environnement cognitif avec 20 articles moyens, voire mauvais, voire erronés, comme on a pu évoquer la dernière séance », n'a plus le droit de travailler dans ces conditions. Il faut une fréquence, et puis peu importe après... de quoi vous parlez, peu importe ou presque, puisque ça doit bien rentrer dans les critères de ces revues. Deuxième terme, l'évaluation des laboratoires. Ils sont à leur tour évalués principalement à partir d'une addition des articles publiés par leurs membres, et leur crédit en dépendent. Donc inutile d'avoir une politique de recherche, un programme de recherche au niveau d'un laboratoire. L'essentiel est de recruter des individus qui publient. Donc ça a tendance à dissoudre toute dimension collective, alors que la recherche en économie et ailleurs est quand même au départ un travail collectif, où on discute, on s'évalue, on résout les problèmes des autres, on se contrôle, etc. C'est toujours par ça que ça avance. Enfin, le troisième terme, l'évaluation des publications, elle, est faite pour partie par les mêmes qui collaborent dans les revues les mieux classées, soit comme auteur, soit comme rapporteur, soit membre du comité de rédaction, et ce qui renforce la concentration sur ce marché, entre guillemets, des articles d'économie. Donc là, enfin, je vous donne des éléments structurants aujourd'hui pour cette profession. Le constat ici fait dans ce rapport, il est relativement récent, il date d'août 2011. Il y a quand même eu déjà des inflexions depuis, avec notamment un nouveau classement des revues en août 2012, mais il n'y a pas franchement de quoi pour l'instant inverser cette tendance. Donc voilà pour l'autonomie. Voyez, le sujet le plus médiatisé, donc des conflits d'intérêts, est un vrai problème. Et en passe, selon moi, d'être résolu, ou bien enfin, il faudra encore quelques tours de dénonciation, critique, et puis peut-être durcissement de règles, mais là, ça va franchement dans la bonne direction, et puis il y a un consensus sur l'idée qu'il fallait améliorer les choses à ce niveau-là. Le vrai problème de l'autonomie se situe plutôt au niveau du fonctionnement du système d'évaluation. Maintenant, deuxième élément, donc, pour évaluer où en est cette profession. Donc sa dynamique de renouvellement. Alors il y a quelque chose d'assez récent, vous l'avez peut-être également vu passer. Il y a des étudiants qui se plaignent, qui sont organisés, un groupe d'étudiants qui s'est organisé sous le label pour un enseignement pluraliste en économie et qui partent d'une forte déception. Sont des étudiants en économie de différents niveaux qui ont été fortement déçus par leurs études qui, pour eux, ne fournissent pas les instruments pour comprendre le monde dans lequel ils évoluent. Et donc, ils demandent des changements dans la manière d'enseigner l'économie. Je vous livre ici leur diagnostic en trois points. Il y a un manque de pluralisme pour eux, à la fois disciplinaire, donc là ça rejoint le besoin de connexion avec d'autres sciences sociales, un pluralisme théorique avec une approche dominante qui a tendance à écraser les autres, moins intellectuellement, vous commencez à le deviner, que donc institutionnellement aujourd'hui, et un pluralisme conceptuel. Alors pour ça, je vous propose, parce qu'au-delà de leur ressenti, ils ont réalisé une enquête pour avoir une vision plus générale de la manière dont l'économie est enseignée à la fac en France, et ils ont sondé 50 universités, ils ont pris leur en France, 50 universités leur programme sur la licence, et ils ont regardé comment se répartissaient les cours. Donc, ils ont fait un joli travail qui a également d'ailleurs connu un certain été relayé par les médias. Vous aviez des articles dans Le Monde à ce sujet récemment, vous avez peut-être vu passer. Donc voilà la licence d'économie type en France, où vous voyez en fait le constat que ça amène tout de suite à faire, c'est que les approches techniques de l'économie, y compris tout de suite les cours de maths, de stats, ces approches techniques sont privilégiées au détriment d'enseignements plus réflexifs, comme interroger justement l'épistémologie, donc la philosophie des sciences, les choix de méthodes adaptées pour penser ce matériau qui est la réalité économique. Donc ces approches techniques, elles sont privilégiées au détriment d'enseignements plus réflexifs comme cette épistémologie, comme également l'histoire de la pensée économique, donc là donc un recul sur les réflexions actuelles, au détriment également de l'étude des problèmes économiques contemporains, peut-être plus évidemment problématiques, et des liens avec d'autres sciences sociales. Donc ça, c'est également tout récent. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, sans doute rien. Je suis un peu de pessimisme ici, mais parce que, en fait, c'est un mouvement récurrent. Si vous voulez, ce qui pose problème, c'est moins... Alors non seulement il y a cette insatisfaction, mais en plus, ça ne date pas d'hier, et des années 2000, déjà, vous aviez un mouvement un peu maladroitement nommé contre l'autisme en économie. Ils ont dû beaucoup justifier à propos de ce titre, qui avait le même message, les mêmes critiques. Et alors, c'est étonnant quand même, à ma connaissance, c'est un mouvement récurrent et qui n'apparaît jamais dans les autres disciplines. Donc là, s'il y a crise à ce niveau-là, vous voyez qu'elle est assez profonde et ancienne. Ce premier mouvement, il émanait de lieux d'enseignement économie parmi les plus légitimes. En particulier, il y avait pas mal d'élèves de l'école normale qui étaient impliqués là-dedans. Celui-ci s'était traduit, alors pas par une étude, mais par une lettre ouverte, qui avait également connu un grand succès. Beaucoup d'étudiants en économie avaient signé, des enseignants les avaient soutenus. Vous aviez trois mots d'ordre derrière ça. Alors là, toujours pareil, beaucoup d'écrits, pas pour lire maintenant, mais si ça vous intéresse, donc le diaporama sera disponible. Trois mots d'ordre: sortir des pures abstractions théoriques, donc parler un peu plus des problèmes économiques concrets, contemporains, plutôt que des modélisations et de comment résoudre un système d'équations. Faire un usage plus raisonné du coup des mathématiques, et puis présenter différentes approches plutôt que de se focaliser sur la dominante. Bon, eh bien, qu'est-ce qui m'amène également à être pessimiste ici? C'est que à l'époque, ça avait un peu fait bouger les choses. C'est-à-dire que suite à ce mouvement, vous aviez le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, pour encore quelques mois, Jacques Lang, c'était la gauche plurielle, qui avait chargé un économiste de la rédaction d'un rapport sur l'enseignement de l'économie. Et celui-ci allait largement dans le sens des revendications des étudiants et proposait donc des modifications conséquentes. Ça n'a malheureusement pas été suivi d'effet. Donc voilà pour la crise du côté du renouvellement. Alors en ayant proposé ces trois axes-là, évidemment, je ne mets pas assez l'accent sur le fait qu'ils sont complètement liés. Mais j'espère que ça apparaît un peu tout seul. Donc, troisième axe, la question de l'équilibre entre unité et diversité. Alors, j'ai parlé jusque-là, à l'occasion des codes de déontologie, de l'Association française de sciences économiques, et celle-ci a vocation, là je cite d'ailleurs les mots récents de son président, alors pas l'actuel, mais c'est juste avant, a vocation de regrouper tous les économistes et d'en être l'instance privilégiée de représentation. On le comprend bien. Seulement, depuis 2010, il existe une deuxième association concurrente, l'Association française d'économie politique, donc vous voyez, il se chamaille drôlement, qui elle comporte d'ailleurs, alors on peut faire un peu l'état des forces en présence, cette toute jeune association a 500 membres contre 1500 inscrits du côté de l'Association française de sciences économiques. Bon, au-delà de ce comptage, là si on peut parler de crise de la profession, c'est parce que on ouvre la voie ici à simplement un éclatement de la profession. Là où d'autres ont eu tendance à fusionner, ou du côté du droit, on a à un moment parlé d'une grande profession du droit qui regrouperait les avocats et les notaires après avoir regroupé dans les années 90 les avocats et les conseillers juridiques. Vous voyez des mouvements comme ça de concentration. Là, on va vers un éclatement de la profession. Bon, ce sont des choses qui arrivent aussi. Et pourquoi s'est constituée cette association ? Ben, sur un diagnostic assez proche de choses qui ont déjà été dites, à savoir les besoins pédagogiques non satisfaits, et puis le risque de disparition d'une tradition d'analyse économique, celle qui considère que l'économie doit faire partie des sciences sociales, et elle pensait donc en référence à ces sciences, et non par rapport aux sciences de la nature. Un des nœuds du problème pour eux, et là je reviens à des considérations très institutionnelles, c'est pour ça vraiment que je distinguais la partie crise de la théorie et crise de la profession, c'est un des nœuds du problème, c'est la manière dont les professeurs sont recrutés. À l'université, vous avez deux grades d'une certaine manière, les professeurs d'université, les maîtres de conférences. Donc je fais partie de l'Association française d'économie politique et je suis dans un camp ici aussi, étant maître de conférences en économie. Et c'est hiérarchisé, ce sont les professeurs qui ont l'essentiel des pouvoirs dans les facultés d'économie pour la direction des formations, l'encadrement des étudiants qui veulent aller en thèse, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, ces professeurs sont presque tous issus d'un même courant théorique, de ce courant dominant, et ça va aller en augmentant, puisque la voie d'accès qui est un concours d'agrégation supérieure est quasiment fermé aux représentants d'autres courants. Alors, pour débloquer cette situation, ce que propose tout simplement cette association, c'est effectivement de faire une séparation qui, alors là, institutionnellement, ça se traduirait par une autre discipline reconnue au sein du Conseil national des universités. Ça, si vous voulez, c'est organisé. Là, je vous les ai mis. Alors là, c'est dommage que vous ne voyez pas. C'est la liste de l'ensemble des disciplines reconnues par le Conseil national des universités et qui fait donc autant de lieux d'autorégulation, d'une certaine manière aussi, de la profession. Donc, vous voyez, je vous en cite quelques-uns. Il y en a une consacrée au droit public, une consacrée à la science politique, une consacrée à la science économique, une autre à la science de gestion, une autre à la philosophie, et puis bon, arrivent les sciences dures, mais également là-haut la sociologie, etc. Bref, il y en a 87 en tout. D'ailleurs, ça a été également décrié ça dernièrement, puisqu'il y en a une qui a été créée un peu d'autorité, une consacrée à la criminologie, à la fin, peu de temps avant l'élection de Hollande, et chose qui n'était pas admise par la communauté universitaire et d'ailleurs sur lequel décision sur laquelle on est amené à revenir depuis. Là, la logique est assez différente puisqu'elle est portée donc par un collectif, un ensemble de professionnels une association, notamment, enfin, dans cette association, donc, je l'ai dit, il y avait 500 membres, et pour le moment, 300 enseignants-chercheurs, sachant que dans ces 500 membres, il y a également des doctorants, des chercheurs au CNRS, qui ne dépendent pas du coup tout à fait des mêmes règles. Vous avez 300 enseignants-chercheurs qui se sont engagés à rejoindre cette nouvelle section dès sa création. On peut estimer alors qu'à terme, c'est environ un cinquième de la profession qui pourrait prendre son autonomie. C'est une affaire en cours, mais vous voyez, voilà, ce qui agite aujourd'hui la communauté des économistes, au moins en France, c'est on va vers un déchirement. Donc voilà, je dramatise un peu le truc. Pour le relativiser, pour nuancer le propos, je précise, et on l'avait déjà évoqué dans la discussion la dernière fois, là je raisonne qu'au niveau universitaire, académique, cet éclatement se jouerait qu'à ce niveau-là, alors que la profession, si encore une fois le terme est pertinent, elle est déjà éclatée par ailleurs, puisque vous avez, voilà, à la casquette d'économiste, un universitaire, mais également un haut fonctionnaire, également d'autres emplois, la catégorie économiste de banque, pour des personnes qui font des études au sein de telle ou telle banque, etc. Donc vous avez déjà cet éclatement. Mais l'éclatement possible avec l'Association française d'économie politique au sein de la sphère universitaire, cette division-là, comme les dynamiques conformistes dans la sphère académique, semble avoir quand même d'importants effets d'entraînement sur les manières d'être économiste en dehors également de cette sphère. Voilà pour le troisième point. Donc en conclusion, eh bien, je garde le titre donné à ce cycle de conférences, j'enlève le point d'interrogation et je propose cette synthèse. Vous avez une théorie en crise, faute de privilégier en fait une théorie des crises. On ne privilégie pas une théorie des crises, on privilégie en économie une théorie de l'équilibre. On part d'une situation d'équilibre et les déséquilibres sont envisagés comme relevant de chocs extérieurs à la marche temps balle de l'économie. La démarche inverse, en prenant au sérieux l'incertitude, l'hétérogénéité des agents et la dynamique des représentations, c'est de considérer que la coordination économique est toujours problématique. Et c'est de partir de la crise comme le cas normal. Et comment ça se fait après que ça tient plus ou moins bien? Et qu'est-ce qui fait que ça va tenir un temps et puis finalement les déséquilibres vont revenir? Donc une théorie en crise, faute de privilégier une théorie des crises. Une profession en crise qui ne parvient ni à gérer sa diversité, ni à faire comprendre au plus grand nombre qu'il y a plusieurs choix possibles, ni à faire valoir auprès des décideurs politiques autre chose que ce qu'ils veulent bien entendre. Et ce qu'ils veulent bien entendre actuellement, c'est précisément qu'il n'y a pas d'alternative. Là, je fais aussi référence à des éléments évoqués il y a 15 jours. Enfin, un monde en crise, faute d'imaginer autre chose qu'une extension toujours plus poussée de la logique marchande au détriment de l'élaboration de projets de société. Donc, je reviens à cette première réponse formulée par des économistes. Il y a bien eu un échec de l'imagination collective, mais on n'imagine toujours pas vraiment l'ampleur de celui-ci. Voilà. Je m'arrête ici et avec le diapo, vous aurez également des éléments, des sites sur lesquels vous trouverez de l'information sur lesquels je me suis appuyé.